Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes le 21 février et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Linria et je suis accompagnée de Hammer aujourd'hui. Bonjour Hammer.
Bonjour Linria.
Et nous accueillons Vincent Dutray. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Illustrateur, entre autres, mais pas que. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on a un petit fil rouge pour détendre un petit peu l'atmosphère et vous demander, Cannes, c'est plutôt quoi ? Jeu ou cinéma ?
Ah, cinéma.
Bière ou champagne ?
Aucun, je bois pas d'alcool.
Très bien, ça nous va aussi. Plutôt camping ou Martinez ?
Un Martinez, quand même.
Un bac. plutôt off ou dodo ?
Dodo.
Dodo, c'est bien. Encore des raisonnables. Plutôt salon ou festival ?
Salon.
Et plutôt pro ou plutôt perso ?
Plutôt pro.
Alors Vincent, bonjour. J'ai regardé un petit peu dans les archives de Proxy Jeux et la dernière fois qu'on t'avait interviewé, c'était au salon de SN en 2016. Alors depuis, j'ai regardé un petit peu ce que tu avais fait. J'ai noté notamment qu'il y avait eu des KS, par exemple avec All In Grail Games, Rising 5, Museum, qui sont des jeux qui sont soit arrivés, soit qui vont pas tarder à arriver. Pas mal d'autres choses, mais à propos des KS, j'avais envie de te demander si ça compliquait en quelque manière ton travail. Est-ce que le fait que, par exemple, le jeu était peut-être un petit peu moins terminé, quand tu fais des illustrations, ça compliquait la manière dont tu dois travailler ?
Alors oui, je pense que les collaborations que j'ai pu faire sur des KS étaient peut-être un peu plus complexes à gérer que des collaborations faites sur du jeu retail pour les boutiques, puisque justement, c'est assez mouvant. Bon, la plupart du temps, les jeux sont finis avant d'être lancés sur KS, mais par contre, il y a toute une partie de communication, stretch goal, add-ons, tout ce qui vient se greffer autour du jeu et de la campagne, qui là est pas évident, même si à l'avance, généralement, on en discute, on fait des plans, on se pose des limites ou non à certaines choses. C'est quand même quelque chose d'assez complexe à définir et qui fait que les projets, des fois, peuvent prendre de bonnes comme de mauvaises tournures, hein, ça dépend comment ça se passe. Là, ça s'est plutôt tout bien passé, on était plutôt ouvert dans tous les cas de figure. Mais travailler sur un KS, j'ai eu d'autres occasions de travailler sur des KS, mais là j'y vais avec un petit peu plus de pincettes, quoi. Je suis un petit peu plus prudent justement pour bien définir et bien délimiter la charge de travail qui sera définie et dans quelle mesure ça peut bouger ou pas pour la suite de la réalisation.
Oui, ça allait être ma question suivante. Au niveau de la charge de travail, en général, les jeux qui sortent sur Kickstarter sont plutôt, on va dire, assez bien fournis au niveau matériel. Il y a souvent des extensions fournies, des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire en général une quantité de travail plus importante pour toi, un nombre d'illustrations plus important que la moyenne ?
Dans ce cas-là, oui, certainement. Et une partie de ce travail est toujours définie à l'avance, bien précisément, mais il y a quand même une partie de l'équation qui est très aléatoire parce qu'elle est liée au KS lui-même, à la campagne en elle-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait plein de plans sur la comète et puis finalement on s'aperçoit que par rapport au déroulé de la campagne, que ce soit sa dynamique ou son financement, ben il faut réorganiser les choses, peut-être qu'il faut enlever du contenu, en rajouter, revoir la forme de tel ou tel ou contenu, ça peut être vraiment très complexe. Et là, c'est pas toujours évident et très cadré. C'est parce qu'on sait pas trop des fois où on va ou des fois oui, on sait très bien, mais on peut pas dire aux joueurs, c'est fini maintenant, vous aurez plus rien. Il y a toujours une forme de remise en question qui est pas forcément permanente, mais qui se fait au fil des campagnes, qui est un peu compliquée. Et ces KS-là dont on a parlé, c'était à une époque où on était un peu dans du KS champagne, où on fait du KS et puis on déroule du stretch goal, on déroule de la donne, des cartes, des composants, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai revu un petit peu ma copie et je m'intéresserai plus à des projets KS où tout est très cadré à l'avance, au maximum, mais dans le sens où peut-être que les stretch goals, ce ne sont que des stretch goals matériels, d'upgrade, d'évolution du matériel, d'amélioration du matériel, comme des cartes plus épaisses, la boîte un petit peu plus grande, on met du linen, on met pas de linen, etc. Plutôt que du projet contenu. Où on va rajouter du contenu qui peut être dépendant de règles, où là, il faut en fait tester, retester, ou tiens, on avait un bout d'extension, mais on n'a pas eu le temps de le tester à fond, et puis Et puis après, ça peut impacter la réalisation des illustrations, et puis ça peut faire accordéon après, et puis des projets qui s'éternisent ou qui deviennent compliqués à gérer.
Oui, parce que je crois que en plus, et tu as déjà eu l'occasion de t'exprimer sur ce sujet, toi, si j'ose dire, tu ne te contentes pas de faire l'illustration, tu portes beaucoup d'attention à la manière dont l'illustration s'intègre dans le gameplay. Donc évidemment, s'il y a des éléments de gameplay qui sont pas définis, forcément, ça va rallonger ton travail ou le complexifier.
Oui, exactement. Moi, je suis dans une optique de m'impliquer fortement dans les jeux auxquels je participe. Je livre même des fois le projet clé en main. Quoi. Après, avec les illustrations, graphic design, tout est fini. Les fichiers pour l'impression, tout est carré. Donc, s'il y a des choses qui changent en cours de route, qui sont pas forcément bien finies, bien finalisées, oui, ça a forcément un impact. Et après, justement, on sait pas dans quelle mesure on sait rarement dans quelle mesure ça peut impacter ou non la finalisation d'un projet. C'est d'ailleurs, pardon, ce qui dans la plupart des temps explique les retards sur Kickstarter. Il y a pas de mystère, hein. C'est que on lance un projet, on a visé comme ci, comme ça, ça tourne autrement, et puis après, on entend souvent parler de problèmes de fabrication, etc. Je trouve que les usines chinoises ont un peu bon dos la plupart du temps. Il y a souvent un petit peu de manque de préparation ou de gestion sur la fin qui peut être compliqué, quoi, vraiment compliqué. Mmh. Quoi.
En revanche, sur Rising 5, je crois que tu avais eu une assez grande liberté. Par contre, en ce qui concerne l'univers, tu avais d'ailleurs abordé un thème que tu n'avais peut-être pas abordé avant dans l'illustration du jeu de société, à savoir la science-fiction. C'est toi qui avais proposé ce thème-là ?
Non, le thème de science-fiction était dans le jeu depuis le début. C'était vraiment quelque chose de précis depuis le début. Et l'idée aussi de quand Gary Kim et Kevin Kim et Vincent qui géraient le projet en Corée me l'ont proposé, c'était aussi dans l'idée de se dire tiens, qu'est-ce que Vincent peut faire dans cet univers ? Ils avaient très envie de travailler avec moi et aussi avec l'envie de voir quelque chose d'un petit peu différent. Et il se trouve que de la SF, j'en ai déjà fait. Par exemple, j'avais illustré Starship Troopers, le jeu de figurines qui est sorti il y a peut-être 15 ans maintenant. J'en ai fait un petit peu, mais pas dans cette ampleur-là et pas avec cette marge de liberté, en fait. Donc là, j'ai pu m'approprier l'univers pleinement. Et comme on était sur un jeu qui était quand même assez familial plus, comme on dit, je voulais que ce soit très très accessible. La science-fiction, ça peut très vite être quelque chose d'un peu, qui est pas exprès, mais qui est difficile d'accès pour la majorité, parce que c'est souvent très codé, référencé, et ça peut devenir très vite imbuvable si on n'a pas les codes, on est complètement perdu. Donc mon optique, ça avait été de faire de la science-fiction accessible, de la même manière que je ferais un jeu d'aventure, de pirate ou de chevalier, et puis en jouant en plus avec les codes de la science-fiction. Il y a des clins d'œil, il y a Star Wars, des inspirations de dessins animés des années 80. Ça, c'est voulu, c'est déjà pour me faire plaisir et puis aussi pour que les gens, pour leur donner des clés pour entrer plus vite dans l'univers et plus facilement profiter pleinement de l'immersion du jeu.
Pour revenir à l'actualité un peu plus brûlante, lors de ce festival des jeux à Cannes 2019, sort Spacegate Odyssey chez Ludonaut, un jeu de Cédric Lefebvre, où là, si j'ose dire, tu as remis le couvert côté science-fiction. Tu as abordé ce projet un peu de la même manière au niveau de l'illustration ?
Oui, exactement. Et là, pour le coup, on n'est plus du tout dans un jeu familial, on est dans un jeu quand même qui est assez gamer.
C'est vrai.
Alors après, les Ludonautes ont eu l'intelligence d'ajouter des petites options qui permettent, par exemple, d'avoir un petit bonus pour ceux qui démarreraient. Mmh. Donc, des gens qui sont pas trop habitués à des jeux un peu costauds, ils peuvent y jouer avec un petit joker pour les premières parties, ce que je trouve assez cool, en fait. Et là, par contre, on est dans un univers beaucoup plus mature, où on est dans de la science-fiction, je vais pas dire réaliste, hein, parce qu'on n'est pas enfin, moi, je vis en Corée, on y est presque, mais en France, on n'est pas encore là. Mais on est dans un univers que je voulais crédible. C'est-à-dire qu'on est dans un univers d'exploration. On va explorer des planètes, prendre leur contrôle. Et mon idée, c'était peut-être plus Vasco de Gama, Magellan, mais transposé à de la science-fiction. C'est-à-dire des gens qui découvrent des lieux, des nouveaux espaces et qui vont s'y installer. C'est-à-dire qu'on a complètement évacué du jeu tout l'aspect exploration locale. C'est-à-dire qu'on construit sa station, on va sur la planète, mais on ne voit pas la faune et la flore, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas, ça, ce n'est pas dans le jeu, ça. Là, vraiment, on s'est concentré sur le gameplay, les règles, pour que le lien soit très fort avec les illustrations et que ça corresponde bien. sans faire croire aux gens qu'ils allaient vivre une c'est pas Christophe Colomb qui va rencontrer les autochtones. Non, c'est juste je construis mon vaisseau pour m'approcher de la planète, je descends sur la planète et après j'essaye de prendre le contrôle du système solaire local.
En tout cas, ce que tu m'expliques nous fait bien comprendre que effectivement tu t'intéresses énormément au gameplay et que tu peux pas vraiment illustrer un jeu si tu ne connais pas le gameplay du jeu en tout cas.
Voilà, oui. Puis je pense qu'il faut pas. Moi, je réfléchis beaucoup à ça parce que ça m'intéresse. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de jeux, comment dire, qui mentent. Moi, j'aime pas un jeu qui ment. C'est-à-dire, on a des jeux des fois qui sont proches de l'abstraction et on va essayer de rajouter une histoire. Alors, on peut toujours le faire, raconter une petite histoire sur un jeu, mais des fois, ça va trop loin. Donc, en tant que joueur, en tant qu'acheteur, des fois, je me retrouve à acheter un jeu avec un œil d'acheteur en me disant ouais, ça a l'air super joli, on va tuer des dragons, on va sauver des princesses, et puis finalement après on s'aperçoit quand on pose des tuiles sur un plateau quoi, avec des petits cubes par dessus. Donc il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup là dedans moi, je veux comme quand on travaille l'illustration d'un livre où on dit que le lien entre le texte et l'image doit être très travaillé, là il faut que le lien soit très fort entre les règles et l'image, entre le gameplay et l'image.
Plus qu'avec la thématique, par exemple, il faut vraiment que l'illustration soit plus, je sais pas comment expliquer, plus forte avec le gameplay que la thématique même.
Je pense, faut être, en tout cas, c'est très délicat. Moi, je suis admiratif, par exemple, du travail d'Azul, qui, en fait, sur le papier, est un jeu assez abstrait. Très, entre guillemets, très germain, très allemand, imaginez Azul si sur la couverture, on voyait un carreleur. En oui. train d'acheter des carreaux ou en train de les poser au sol. On aurait le sentiment, peut-être, ah oui, je vais jouer une boutique, la boutique d'un carreleur, je vais acheter ma glaise, je vais fabriquer mes tuiles, poser mon ciment et les poser au sol et créer des mosaïques.
Oui, effectivement, on en est loin.
C'est pas ça. Mine de rien, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des tuiles et on les pose par terre. Point barre. Donc en fait, je suis assez sensible à ça et je trouve que ça fonctionne très bien parce que on ne ment pas, le jeu ne ment pas. C'est pareil pour Reef, qui est fait par le même éditeur où on a un visuel qui est en adéquat. Alors il y a un thème, évidemment, on pourrait mettre autre chose que du carrelage, on pourrait mettre des carreaux au Taj Mahal ou ailleurs, mais on s'en fout, ça c'est pas là en plus, c'est original, ils sont allés chercher des carreaux au Portugal, un petit truc, c'est un petit peu plus exotique, ça sort un petit peu des sentiers battus. Et il y a ce travail, moi, que j'aime beaucoup et auquel je réfléchis de plus en plus, justement. Que le lien soit très fort et ne pas mentir aux joueurs, où en voyant Azul, ils savent qu'ils vont se retrouver avec quelque chose de, entre guillemets, d'abstrait, sans que ce soit quelque chose de négatif, où, en fait, on pose simplement des tuiles, et puis après, il y a un matériel qui est développé dans le sens qu'on a un peu l'impression d'avoir des vraies tuiles en main, etc.
Une des autres nouveautés sur le salon, où ton nom figure sur la couverture, c'est le jeu pour deux joueurs Nagaraja chez Hurricane. Si ma mémoire est bonne, c'est un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala. Comment tu as travaillé sur ce jeu ? Quelque chose de particulier ou pas ?
Oui, de très particulier, parce que depuis un petit moment, sans faire le malin, on connaît Vincent Dutray dans le milieu, on connaît mon dessin, mes images, mon univers, on le reconnaît, on reconnaît ça, c'est identifiable. Après, il y a des gens qui veulent du Dutray pour du Dutray quand ils me contactent, parce qu'ils cherchent cette imagerie, ce type d'image sur leur jeu. Et puis, mais moi, j'aime bien faire d'autres choses aussi. Je suis toujours ouvert à de nouvelles expériences, et puis j'aime expérimenter. Le seul souci, c'est que personnellement, j'ai pas le temps, parce que je suis très occupé entre mon travail, la famille, mes recherches, etc. Donc, de temps en temps, sur certains projets, je me dis, tiens, il est peut-être possible de développer de nouvelles choses. Il se trouve que sur Nagaraja, donc c'est un jeu que Bruno a travaillé avec Théo, et je suis très proche de Bruno, donc il me fait jouer au prototype. Moi, j'aime beaucoup le jeu, et puis Bruno se dit, mais j'aimerais vraiment que ce soit toi qui l'illustre. Il n'y avait pas encore d'éditeur dans la boucle. J'aimerais beaucoup que ce soit toi qui l'illustre, mais différemment, avec un autre. J'aime pas trop le mot style, mais avec une autre écriture ou un autre univers que ce que je peux faire d'habitude, et juste même techniquement. Donc après, il a présenté son jeu à Hurricane, qui ont adoré le jeu, qui ont dit « Ok, on le publie ». Et puis, dans le package, il y avait « Et c'est Vincent, mais différent ». Quoi. Ce qui était intéressant, parce que, mine de rien, là, je le remercierais vraiment l'équipe d'Hurricane pour ça. Ils ont accepté sans rien voir en amont, puisque c'est quelque chose que je n'avais pas encore développé. Et mon idée, c'était de revenir au dessin. C'est-à-dire que dans le monde du jeu aujourd'hui, on a beaucoup d'images qui sont techniquement très travaillées, les miennes aussi, dans mon univers traditionnel avec pinceau, crayon, peinture sur papier. On a des choses très travaillées techniquement, mais finalement, on a peu de dessins, de choses vraiment dessinées, où on voit le dessin à la main ou sur ordinateur, hein, c'est pas le propos. Et j'avais envie de faire quelque chose de très dessiné et qui fasse un peu BD, avec des cernés et puis quelque chose de très très dessiné, et en me disant aussi, tiens, pour une fois, je vais faire les couleurs en numérique, entièrement sur ordinateur.
D'accord.
Alors j'ai travaillé de manière complètement différente de d'habitude, en faisant tous mes crayonnés de manière éclatée, en petits morceaux, un personnage ici, un décor là, et après en agençant toutes les couleurs sur ordinateur, et avec un énorme travail de texture par-dessus pour donner un côté vintage, un peu pulp, comme les romans pulp, les livres d'aventure à la Indiana Jones, etc. Donc j'ai axé vraiment tout le développement de Nagaraja dans cette direction, et je suis assez content du résultat, l'équipe aussi, parce qu'on a finalement on a du trait qui je pense que les connaisseurs s'y retrouveront et y retrouveront ma patte, mais après quelque chose d'un petit peu différent qui permet peut-être de communiquer un peu différemment sur le jeu et puis d'ouvrir de nouveaux horizons.
Est-ce que ça veut dire que dans l'avenir tu pourrais vouloir retenter l'expérience en allant plus loin? Est-ce que par exemple tu pourrais passer au tout numérique si ça te permet de faire quelque chose de nouveau que tu ne peux pas faire autrement?
Alors c'est déjà fait, parce qu'entre-temps j'ai travaillé avec l'éditeur coréen Board M sur un jeu qui s'appelle Scientia, et l'auteur de ce jeu c'était un des deux co-auteurs de Rising 5. Avant.
D'accord,
donc on s'est retrouvé sur un nouveau projet où je leur ai dit, ben les gars, cette fois-ci, je veux faire du tout numérique. Je ne dessinerai absolument rien à la main. Donc je suis plutôt en retard sur le jeu parce que mine de rien, ça m'a forcé à une nouvelle gymnastique, développer de nouvelles choses. Et là, j'ai fait le jeu de manière totalement numériquement, que ce soit illustration, couleur, à partir de photos, retouches, assemblage d'éléments. Et là, c'est encore une autre forme de Dutrait qui, pour le coup, est peut-être plus, est encore plus éloigné, on va dire. Et j'ai aussi encore un autre projet avec Bruno, qui sera pour l'éditeur Mandu Games en Corée, où là aussi, je fais quasiment du 100% numérique, où on sera cette fois-ci à mi-chemin, justement, entre un Scientia et un Nagaraja.
D'accord.
C'est-à-dire, je creuse un sillon, j'essaye de développer de nouvelles pistes, et puis en mélangeant tout ça, quoi. Et puis avec la chance d'avoir des éditeurs qui m'ouvrent des espaces pour le faire, quoi, comme ça, et qui me font confiance jusqu'au bout là-dessus, quoi.
Ah, on parlait du numérique, et justement, l'an dernier, je crois, ou peut-être même l'année d'avant, tu as fait les illustrations d'un jeu qui existait déjà sous forme physique, mais tu as fait les illustrations pour l'adaptation numérique, à savoir Jaipur.
Oui.
Et si je ne me trompe pas, j'ai vu que les illustrations de ce jeu, donc qui est d'abord sorti sous forme d'une application, sort maintenant sous forme physique, maintenant que le jeu a été repris chez Space Cowboys. C'est la première fois que ça arrive, j'ai l'impression.
Ah oui, il me semble, oui. Alors ça, c'était intéressant, puisque pour l'application de Jaipur, Sébastien Pochon m'avait contacté pour travailler sur les illustrations, parce que c'était pas le même support. Et puis parce que ça permettait aussi de changer les images du jeu. Le jeu avait déjà presque 10 ans. Ça permettait de changer un peu les choses et puis de travailler les choses différemment, parce qu'il y avait beaucoup plus de narration dans l'application. Il y avait beaucoup plus d'éléments. Donc on a travaillé ensemble. Mais bon, on est quand même pas né de la dernière pluie avec Sébastien. On avait tout pensé pour que, au cas où, si un jour ça sortait en physique, que tout soit prêt. C'est-à-dire que le travail sur l'application n'a pas été simple, parce que je me suis retrouvé à réaliser les illustrations pour une application, avec des formats, des tailles, des contraintes pour application, tout en gardant à l'esprit que si jamais un jour on avait l'occasion de faire ça en physique, il faut que ce soit exploitable. Donc on a travaillé ça, et puis il se trouve que là, depuis quelque temps, les jeux Gameworks glissent chez les Space Cowboys.
Oui.
Et donc les Space Cowboys décident de lancer une nouvelle série de jeux à deux, en se disant, bah tiens, nous allons intégrer Jaipur en ouverture, quoi, comme locomotive, et avec les illustrations de Vincent. Cette fois-ci, on boucle la boucle, et puis on en profite, on reboot le jeu en quelque sorte, sans toucher son cœur, et puis on change les illustrations.
Ouais, ça permet de lancer une nouvelle gamme, en fait.
Voilà. Et moi, je suis vraiment très content, parce que Je suis quelqu'un qui reste attaché au papier, même si, là, comme je viens de le dire, j'aime expérimenter des choses. Je reste attaché au papier. J'ai besoin du matériau, de toucher, et ça me frustrait un tout petit peu sur l'application. Mm-hmm. Je me disais, si ça sort jamais en vrai, ça, ah, ça va, j'aurai un sentiment de pas,
d'inachevé.
Inachevé ou d'étrange, à minima. Donc là, je suis très content. Et puis, pour la petite anecdote, pour poursuivre, le deuxième de cette collection s'appelle Jodhpur.
Oui.
Et donc, c'est un jeu totalement différent. C'est pas une extension ou une rallonge ou quoi que ce soit. C'est un autre jeu. Et là, qui est dans l'univers de Jaipur, qui cette fois-ci est un jeu de tuiles. C'est plus un jeu de cartes, et qui se joue toujours à deux. Où on a, c'est-à-dire que si, pour ceux que ça intéresse, Jaipur c'est au Rajasthan et pas très loin, il y a Jodhpur. Mmh. Jaipur qui est plutôt une ville rose avec des couleurs roses et Jodhpur qui est plutôt bleu. Donc cette fois-ci, les joueurs vont se retrouver à Jodhpur. Donc c'est les deux premiers jeux de cette collection qui ici sont visibles sur le salon, qui doivent, je sais pas si c'est jouable pour le public, mais qui en tout cas sont ici. Mmh.
J'ai vu des boîtes en tout cas.
Il y a des boîtes de démonstration après, oui. Tu vois. Et donc c'est pas mal parce que d'un coup je me retrouve avec Jaipur qui prend vie physiquement et en plus je peux poursuivre l'univers et l'enrichir et le compléter avec Jodhpur. Donc là moi je suis aux anges.
Donc ça risque de devenir une gamme dont tu vas devenir l'illustrateur attitré pour ainsi dire ?
Non, parce que les titres suivants, le 3, le 4 sont déjà prévus et là ça entre guillemets ça n'a rien à voir.
D'accord.
C'est d'autres jeux très différents, d'autres illustrateurs, mais une gamme à deux joueurs qui
D'accord.
se joue, on va dire, à partir de 10 ans, 30 minutes, cadré comme
format,
ça. Mais c'est pas moi qui m'en occupe et ça n'a rien à voir avec Jaipur, Jodhpur. Voilà.
Tu parlais tout à l'heure tu disais que tu aimais bien trouver des manières de travailler un petit peu différentes. Pour revenir encore une fois à l'actualité, je vais te parler d'un jeu qui est sélectionné pour l'As d'Or. Alors nous sommes jeudi après-midi, le palmarès n'est pas encore connu.
Sorti, ouais.
Et c'est Solenia. En fait, la couverture de Solenia, je sais que moi personnellement, quand je l'ai vue, j'ai pas du tout pensé que c'était un dessin de toi. Parce que tu l'as apparemment travaillé de manière, là aussi, un petit peu particulière.
Oui, tout à fait. Solenia, c'est un projet qui est assez hybride par rapport à mon travail. C'est que justement, c'est les deux choses en même temps. C'est le du très classique et une autre forme de quelque chose que je mets en place. Et pour la petite anecdote, au tout début du projet, donc c'est Sébastien Dujardin qui est l'auteur de Solenia et qui en est aussi l'éditeur, souhaitait que Tom Vuarchex et Vincent Dutray travaillent ensemble sur le jeu.
Intéressant.
C'est-à-dire on peut dire, hein, on travaille de manière tous les deux très différente. Mm-hmm. Tom, qui est graphiste, travaille illustrateur graphiste, très proche du graphisme pur et dur, avec des couleurs, des formes, et puis moi d'un travail beaucoup plus docu-fiction, dans une forme de réalisme. Et je trouvais ça super excitant. Donc on a beaucoup échangé, beaucoup discuté, ce qui en plus a déclenché pas mal de choses chez moi, qui m'a permis de réfléchir à d'autres approches, d'autres éléments. Après, le petit souci, c'est que Tom était vraiment très occupé, très accaparé par son travail en cours et n'a pas pu poursuivre. Donc, j'ai poursuivi tout seul, mais en gardant certaines de ses idées, voire toutes ses idées, et puis ce qu'on avait commencé à élaborer ensemble. Et ce qui a donné justement cette esthétique sur la couverture, où on parlait au début d'une couverture blanche. Puis moi, comme je voulais pas faire tout à fait comme d'habitude, je me suis dit blanc, mais teinté. Mmh. On fait une couverture blanche, mais pas blanche.
C'est vrai que ça fait un peu tache de couleur, hein, pour ceux qui n'ont pas visualisé Solenia, c'est assez abstrait au milieu, ça fait un peu.
Voilà, on a une texture de papier derrière, et puis au milieu, on a une silhouette d'arbres volants, et
Exactement.
Puis à l'intérieur de cette silhouette, on a un soleil avec le jour et la nuit. Et moi, je suis parti de l'idée de la double exposition, double exposure, qui est utilisée en photographie. Mmh. On peut le voir dans des génériques comme True Detective, où on met une image qui est en silhouette et on met une autre image à l'intérieur. Mmh. Et je suis parti de cette idée, en fait. Mmh. Et puis en avançant, comme je sais que Sébastien Dujardin est très sensible au rock, parce qu'il monte sur Facebook tous les concerts où il va, un peu ça, des trucs des fois un peu obscurs, des groupes un peu étranges, je me suis dit, je vais penser cette couverture comme une couverture de vinyle. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vinyle, les 33 tours noirs, etc., où on écoutait de la musique. Donc je me suis dit, je vais créer ça comme une couverture de vinyle des années 70 d'un groupe, indé, rock, je sais pas quoi. Donc ça s'est créé comme ça, avec un travail finalement plus axé sur le graphisme et plus sur, on va dire, sur la transmission directe d'émotions. au lieu de raconter quelque chose, une couverture qui n'est pas un narratif, qui vient pas nous raconter ah dans le jeu vous allez prendre des ressources, aller les poser sur la planète. Non non, là c'est voilà, je vous transmets une émotion. Voilà. Mmh. Et puis après on aime, on n'aime pas, ou on se laisse happer ou pas par ça.
Alors à l'inverse, et pour parler d'un autre jeu qui est dans l'actualité, qui est un autre jeu sélectionné pour l'As d'Or...
Oui, excusez-moi de travailler.
On comprend les raisons de ta présence au festival.
Voilà.
Il y a L'île au trésor, qui pour le coup, là, cette couverture-là, elle raconte clairement l'histoire.
Voilà, puis là, il faut du trait. Là, il n'y a pas de mystère. Là. Puis il se trouve qu'ayant déjà un passé dans l'illustration jeunesse, j'ai déjà illustré l'illustrésor peut-être 3 ou 4 fois,
mm-hmm.
sous différentes formes, que ce soit une couverture ou un petit roman ou un petit album. Donc c'est un sujet que je maîtrisais quoi, vraiment très bien, l'ayant lu plusieurs fois. Et puis là, puis on est sur une imagerie de pirate, et puis pour le coup, clairement inspiré du livre. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au tout début du projet, où on était plus sur l'idée d'une île au trésor, et puis avec des personnages. Mmh. Et puis en avançant, il fallait que ce soit Long John Silver, il fallait que ce soit Jim Hawkins, et puis quelques pirates célèbres. Et puis après, on prend quelques libertés avec l'histoire et la fiction pour créer le jeu. Mais là, je pense qu'il fallait absolument une patine très classique, entre guillemets, sans... Moi, en petit aparté, j'aime beaucoup ce que dit Philippe Despalières de mon travail, puis il dit que je fais du vieux neuf. je trouve ça très joli parce
D'accord.
que je revendique une certaine tradition de l'illustration mm-hmm. à l'européenne, voire même à la française, comme les livres qu'on lisait enfant dans les années 70 ou 80, avec des illustrations très léchées, très travaillées, et une approche moderne de l'image, que ce soit par la couleur, les compositions. Donc pour L'île au trésor, ça correspondait bien à ça, quoi. Ça allait bien, ça donne ce côté un petit peu classique, cette patine un peu je vais vivre un vieux truc de pirate, et en même temps de manière moderne, avec derrière une mécanique, elle pour le coup tout à fait moderne, innovante et encore jamais vue, à tracer des cercles sur un plateau, etc. Donc voilà.
Oui, il y a justement ce grand plateau, cette immense illustration sur laquelle les gens vont venir dessiner et qui fait partie intégrante du jeu, peut-être plus qu'un plateau de jeu le fait d'habitude. Tu as dû trouver une manière particulière de réaliser l'illustration pour ce plateau, pour que on puisse voir beaucoup de détails, mais que ça puisse quand même rester lisible pour les joueurs.
Alors disons que ça a été la partie extrêmement sensible du projet, et ils se reconnaîtront. Non, il y a pas d'issue, pas d'histoire, mais j'ai atteint là pour la première fois depuis très longtemps des limites à ce que je peux faire en fait, des limites techniques à mon travail. Mm-hmm. Comme je dis, travaillant avec crayon, pinceau, etc., j'ai quand même des limites physiques à mon travail par rapport à la taille d'un pinceau, la taille d'un crayon, d'un feutre. Là, le niveau de détail requis m'a dépassé en fait. Et j'ai dû demander de l'aide pour pouvoir finir, parce que je ne pouvais pas atteindre ce niveau de détail en travaillant comme je le faisais habituellement.
Mmh.
Puis c'est un projet qui a été très long, assez compliqué à finaliser, pour le meilleur au final, donc tout va bien. Mais là, c'est Sabrina Tobal, qui travaille chez Matago, avec Matago, qui m'a aidé justement. Moi, j'ai peint... C'est-à-dire que s'il fallait vraiment que je fasse tout ça à la main, à la peinture, il fallait que je fasse une image, je dis comme ça, mais qui fasse 3 mètres sur 4, puis je m'allonge dessus, puis je peins les maisons, et puis voilà, le jeu il serait pas là aujourd'hui, quoi. J'exagère, mais c'est pas loin, quoi. Parce que mine de rien, quand vous travaillez un plateau qui fait 50 par 50, si je veux le travailler un peu plus grand pour que ce soit confortable, je me retrouve des fois avec des images qui physiquement, logistiquement, sur mon bureau peuvent faire 1 mètre sur 1 mètre.
C'est possible.
Mais après c'est des équations un petit peu complexes de timing, même de budget aussi, hein, ça rentre dedans aussi. Donc là on a trouvé un bon compromis, une bonne solution. Donc j'ai peint en fait à la main toute la base du plateau, l'eau, l'herbe, le sable, une partie des montagnes, etc. Puis après j'ai peint des éléments séparément, et Sabrina, elle, avec l'outil numérique qui permettait de descendre à une échelle que je n'arrivais pas à atteindre au pinceau, elle a fini de composer le plateau comme ça.
D'accord.
Donc autant on va dire que tout le reste, couverture, personnage, carte, là j'ai tout fait tout seul comme un grand, comme d'habitude. Là c'est un vrai travail à quatre mains sur le plateau. Et Sabrina a vraiment été d'une très grande aide, puis elle a fait un super boulot, parce que c'était vraiment compliqué. Hein. Même pour elle après, dans la partie numérique, c'est pas juste tiens je réduis le machin puis tout va bien. Non non, c'était ça a été très complexe à mettre en place. Quoi.
Alors on a beaucoup parlé de ton métier d'illustrateur, mais ce n'est pas la seule corde à ton arc. J'ai cru comprendre que tu avais fait une incursion dans le métier d'auteur de jeu avec Bruno Catala. On parlait de lui il y a pas très longtemps. Il me semble que vous avez créé ensemble un jeu qui sort chez Lifestyle Games, je crois.
Voilà, c'est ça. C'est le jeu qui s'appelle le Loser.
Oui.
C'est au fil des discussions, avec, que ce soit avec Bruno ou Sébastien Pochon ou d'autres, on discute très régulièrement, au moins une fois par semaine, que ce soit pour des projets en cours ou pour toute autre chose sur le métier ou pas. Et au cours d'une discussion, en parlant avec Bruno, je lui dis que moi, ça m'intéresserait de voir comment ça se passe du côté auteur, comment développer un jeu. J'ai clairement pas les capacités d'un Bruno pour développer des jeux, mais je voulais voir ça, je voulais voir comment ça se passe. Donc Bruno m'a proposé de participer avec lui à la réalisation d'un jeu dont il avait déjà l'idée de départ et le début du développement. Donc on a fait ça ensemble. Moi, de mon côté, vivant en Corée avec mes collègues coréens qui m'ont aidé énormément à tester le jeu, à élaborer, à trouver des idées et tout. Et puis après, avec Bruno, on faisait le point, on voyait comment faire évoluer. Et puis ça s'est fait comme ça. Puis c'est Lifestyle, l'éditeur russe, qui donc l'a sorti l'année dernière. Je crois qu'il est sorti pour SN, justement. Donc voilà.
D'accord. Ça n'a pas été... C'est un jeu que tu n'as pas illustré, donc.
Non, je ne l'ai pas illustré. Ça partait du postulat que si ça s'était présenté, pourquoi pas. Mais Là, c'était en restant co-auteur avec Bruno, et puis illustré par quelqu'un qui a fait un chouette boulot dessus.
Toi, ça ne t'a pas posé de problème d'être de l'autre côté de la barrière, de n'avoir rien à dire du coup du côté des illustrations.
On a dit quand même parce qu'on nous a montré petit à petit, mais de manière tout à fait cohérente et puis constructive. On a apporté un peu d'eau au moulin pour des petits détails de lien avec le gameplay, les images. Et puis le résultat final est très chouette, ouais, je suis très content. Ouais.
Moi j'ai une question, est-ce que le fait de vivre en Corée, justement ça te permet d'amener des nouveaux éléments de gameplay qu'on connaîtrait pas forcément d'ailleurs dans les jeux européens ou enfin dans les gameplay classiques qu'on peut avoir, est-ce que ça a apporté un petit plus finalement d'être expatrié?
On va dire pour le gameplay en termes de règles, je sais pas. Là, je me rends pas compte. Mais en termes d'illustration, oui, ça m'apporte beaucoup parce que
les paysages sont différents.
Mine de rien, voilà, je vois
les
choses différemment, même au quotidien. Par exemple, en Corée, j'ai toujours été surpris de l'utilisation, même excessive, d'icônes partout, des pictos. Je pense d'une part parce qu'il y a eu beaucoup d'illettrés pendant longtemps. Parce que ça a été une dictature, c'est un pays qui a émergé il y a finalement qu'à 30 ans, 40 ans. Et puis aussi parce que il y a eu beaucoup l'influence du chinois aussi dans la langue coréenne. Donc il y a dès qu'il y a une information, il y a le picto qui va avec. Je me souviens très bien quand il y avait eu un souci il y a quelques années avec le virus MERS qui avait fait des dégâts en Asie, un virus très dangereux. Dans l'ascenseur, il y avait un panneau avec textuellement indiqué « Attention, il y a le virus MERS, il faut bien se laver les mains, il faut porter un masque, ça vient du Moyen-Orient ». Ben, il y avait un picto avec un chameau, il y avait un picto avec des mains sous un robinet, un picto ceci, cela, et puis finalement, un enfant pouvait comprendre ce qui se passait. Quoi.
C'est ce qu'on retrouve, je trouve, de plus en plus dans les aides de jeu d'ailleurs. Souvent, ils traduisent le texte en pictogramme
de plus en plus.
Ça vient peut-être de l'international.
Puis aussi le fait, parce qu'en Corée, la langue est une langue très très graphique. Ce ne sont pas des idéogrammes comme en chinois, c'est un alphabet qui est construit. Ce sont des lettres, à peu près, il y en a à peu près autant qu'en français. Donc c'est qu'on vit dans un univers très graphique en Corée où beaucoup de choses passent par l'image, beaucoup plus qu'en Europe en fait et qu'en France.
On va finir cette interview avec toi par une question peut-être un petit peu plus générale, mais toujours sur ton métier d'illustrateur. J'ai entendu récemment une interview de Clemens Franz, qui est un illustrateur autrichien dont tu connais certainement le nom. Alors pour les auditeurs, c'est un illustrateur qui a fait par exemple Agricola, Orléans, Isle of Skye, Newton plus récemment. Et dans l'interview, la personne qui faisait l'interview lui disait que les joueurs avaient tendance à identifier son style d'illustration avec le type de jeu qu'il illustre généralement, puisqu'il a l'air de se cantonner au jeu de gestion, on va dire. Et je me demandais si tu penses qu'un style de dessin peut être plus propice à un type de jeu, ou bien est-ce que c'est les joueurs qui se sont simplement habitués à ce style et qui l'associent à ce type de jeu.
C'est vaste, mais c'est un peu des deux, je pense. C'est-à-dire que les illustrateurs allemands ou autrichiens, généralement, de ce que je sais, de ce que je connais, ce que je vois, ils travaillent beaucoup en circuit fermé, en fait. Ils travaillent avec les mêmes éditeurs sur le même type de jeu. Donc forcément, il y a un petit peu, à un moment, une forme de... C'est pas un cercle vicieux, mais une forme de quelque chose qui tourne, comme ça, quoi. Et forcément, à un moment, lui, il produit pour les jeux qu'on lui demande, et comme on lui demande que ce type de jeu, il produit dans ce sens-là, etc. Mmh. Après, je pense que oui, on voit de plus en plus de jeux avec un certain type de graphisme. Il y a des modes, il y a des tendances, et je m'inquiète un petit peu des fois de voir que les éditeurs ont tendance à tous marcher sur les pieds ou à suivre les mêmes tendances. Ah tiens, un tel, il a lancé tel type de jeu qui marche bien, donc je vais faire le même genre de graphisme parce que ça marche bien et puis que ça marchera bien. Ça marche un temps, puis après ça se casse la gueule, quoi. Ça peut pas...
Est-ce que c'est lié au fait que on est dans une société où le visuel est de plus en plus important? Enfin, ça a toujours été le cas, mais on voit bien l'image que reflète même la réalité, hein, les magazines. Il faut que le visuel soit attrayant avant tout. Est-ce que ça viendrait pas de là?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, il y a certains types de jeux. On le voit dans le domaine de l'application aussi.
Oui.
Les applications
vrai.
De Tower Defense et tout, ils ont tous les mêmes images. Enfin, je caricature.
Oui, non, mais c'est vrai,
hein,
c'est vrai. Je suis d'accord avec toi.
Et finalement, on a un peu la même chose dans le jeu de société aujourd'hui. On tend un petit peu vers ça de plus en plus. Parce que un tel a fait un truc qui marche bien, donc je vais pas faire pareil, mais
un
je vais aller.
Comme le jeu vidéo aussi, d'ailleurs.
C'est même un peu zinzin des fois, parce qu'on en va même à appeler le même illustrateur, en se disant, tiens, je vais profiter de ça aussi. Là, si demain quelqu'un me proposait de refaire un jeu sur les pirates, en se disant, tiens, je vais profiter de l'île au trésor, je le ferais peut-être pas. À moins que ce soit vraiment une mécanique différente, des pirates différents, un truc différent, j'irais pas me faire de la concurrence tout seul. Ce serait idiot, quoi. Après, c'est un choix de la part des illustrateurs aussi, hein. Est-ce qu'on a envie de toujours faire la même chose ou pas? Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas noir ou blanc, c'est pas bien ou mal, hein. Il y a des gens qui aiment travailler toujours dans le même esprit, dans le même genre d'univers, les mêmes cibles, d'autres qui vont chercher ailleurs. Moi, je suis plus à aller chercher ailleurs et à m'adapter, à proposer une palette la plus large possible. Puis quelque part, après, de manière très terre à terre, c'est une manière de pérenniser mon travail aussi. Il se trouve que, alors le monde du jeu, c'est une grande famille, c'est très rigolo, mais moi je fais vivre 4 personnes, je fais vivre ma famille, il faut que ça continue quand même, quoi. Donc moi, quand je sens qu'il y a quelque chose qui marche pas très bien dans mon travail, j'essaye d'adapter, de changer, quoi. J'ai eu la chance il y a quelques années quand il y a eu beaucoup de Dutray sur les jeux, la période Augustus, New York 1901, Lewis et Clark, où des collègues comme Sébastien Pochon ou Bruno Catala m'ont dit, mais fais gaffe qu'il n'y ait pas un peu overdose, quoi. Va peut-être voir ailleurs, essaye de contacter les éditeurs américains ou allemands. Ce que j'ai fait et ce qui m'a permis d'aller développer d'autres choses ailleurs et puis de disparaître, mais de prendre un petit peu d'écart à un moment, puis là maintenant il y a plein de choses, et puis comme on vient de le souligner, dans des choses très différentes des fois, donc après chacun mène sa barque comme il le sent, mais moi ce serait, j'aime bien travailler dans ce sens là puis en fait je suis super curieux de voir ce que je vais faire plus tard. ça m'amuse.
C'est un nouveau challenge finalement, hein. Voilà. On se dit bon bah tiens, on va essayer ça.
Exactement.
Mais on le voit bien, enfin moi je l'ai entendu tout le long de l'interview là, on sent que t'as envie toi-même de te lancer des nouveaux challenges, peut-être aussi que c'est ce qui nous permet de garder la motivation,
sinon,
chacun dans notre métier d'ailleurs.
Sinon,
je
m'ennuie
que c'est,
après. Quoi.
Bah voilà,
c'est
comme
pas...
tout le monde.
Ou sinon, je vais faire autre chose. Le jour où je sens que j'en ai ras-le-bol, moi, j'arrête l'illustration. Hein. Puis je dessine pour moi et puis je vais enseigner l'illustration comme je l'ai fait avec plaisir auparavant ou je sais pas quoi. Il y a plein d'autres choses dans le monde de l'image, dans l'univers de l'image, il y a plein de choses à faire. Donc moi, je suis ouvert à tout. Hein, donc,
Bah merci Vincent Dutray, hein.
Bah merci à vous, hein, pour cet espace.
Merci
pour
beaucoup. On pourrait en discuter encore pendant très très longtemps. On te souhaite plein de bonnes choses, plein de nouvelles choses donc pour l'avenir. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la. Rendez-vous sur notre page Tipeee pour nous soutenir. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout
jouez bien.